Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver en ce lundi après-midi 16h, 18h, c'est arrivé près de chez vous. Alors je vais tout de suite vous donner les coulisses de l'émission, on a l'impression que c'est déjà la rentrée des classes. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait ce week-end, mais mes petits camarades de jeu, ils sont là, hyper sérieux, il n'y a pas un mot, ils sont dans leur fiche en train de relire leurs notes. C'est pas le moment les gars, fallait préparer ça à l'avance. Non mais... Bon, c'est pas moi la maîtresse, c'est Clara Léger qui viendra nous faire faire nos devoirs de vacances comme tous les jours dans cette émission. Nous allons apprendre une nouvelle expression régionale. Peut-être que vous, qui nous écoutez sur Europe 1, vous la connaissez, voire même vous l'utilisez. On en saura un petit peu plus tout à l'heure. Alors, dans le fond de la classe, Jules Bernard Leblanc.
Présent. Présent, madame Bérénice. Nous irons aujourd'hui à Paris et à Albi. Peut-être.
Peut-être. Ah bah déjà. Ça commence bien. Je rappelle pour les auditeurs qui viendraient de nous rejoindre, parce que c'est vrai, il y en a beaucoup parmi vous qui font le pont. Eh ben oui, donc ils se disent là, peut-être ils ont le temps d'écouter Europe 1. Il y en a qui sont peut-être sur la route des plages, la route des montagnes, la route du retour, la route des courses, la route de...
Enfin, la route du Rhum.
Alors ça c'est bien, la route des vins, la route de tout ça, toujours avec modération. Il y a toujours notre camarade de modération qui est là. Le quiz qui s'est passé, Jules, vous faites le tour de France des informations insolites.
Absolument.
Bah, mais j'espère bien.
Insolites, mais pas fraîches.
Ouais. Mais pas fraîches.
C'est ça le problème.
Et parfois drôle.
Et parfois drôle, autant que faire se peut.
On l'espère. Dans le fond de la classe aussi, Maître Galibert, bonjour.
Bonjour, Dennis. Bonjour,
le
bonjour
quiz...
à tous.
Oh, c'est quoi cette voix hyper quoi, sérieuse qu'est-ce, a... qu'est-ce que vous avez fait ce week-end, vous?
Ah, mais j'ai fait manger Rolio Iglesias.
On va aller se...
Ah oui, donc on ne saura pas ce qu'il a fait, non. Ok. Donc, mais on ne peut pas savoir.
On va aller se promener. Tout à l'heure, à l'instant, Jules évoquait la ville d'Albi, qui est la préfecture du Tarn. Et mon petit doigt me dit que nous pourrions aller dans une autre ville du Tarn, figurez-vous.
Tiens, ah oui.
Peut-être d'accord. Même la sous-préfecture. Mais je n'en dis pas plus.
Bon, non, bah là, on sait tout.
Mais non.
Évidemment, on sait très bien que c'est... Ok, non, mais je vous en prie.
Pardon.
Oh, qu'il est gonflé. Le quiz des régions pour gagner un an de vacances, peut-être, ça c'est à vous que nous nous adressons. Vous pouvez déjà vous inscrire en envoyant le mot région au 739 21, suivi de votre prénom et de votre numéro de téléphone. Bon, ben je pense que... Ah, mais non.
Mais oui.
On a oublié le premier de la classe,
mais oui.
Évidemment. Nicolas Beutard, c'est sa gazette locale et son cinéma. Il n'arrête pas de faire son cinoche.
Mais
c'est
oui,
pas
c'est le problème. Mais en fait, non, je suis devant parce que toutes les places derrière étaient prises, évidemment.
Voilà, c'est
donc
ça.
Je me suis mis devant, il ne restait plus que celle-là.
Eh bien, restez avec nous, Nicolas, et vous aussi qui nous écoutez. C'est arrivé près de chez vous, c'est parti.
Bérénice Bourgueil sur Europe 1, proche de vous et près de chez vous.
Sous vos applaudissements, dans son kiosque, parce qu'il a un petit kiosque à journaux, dans son kiosque, nous retrouvons toutes les gazettes de France et dans sa chronique, nous retrouvons le meilleur de ces gazettes. Ne faites plus durer le suspense plus longtemps. Nicolas, c'est vrai qu'on est là. Oh,
oui, oui,
suspense,
de quoi va-t-il nous parler,
suspense,
de quoi,
oui, cette lecture intensive de la presse régionale. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu pour nous?
Eh bien, nous en parlons quasi tous les jours dans cette émission.
Oui.
Pourquoi ?
De quoi ?
Ben parce que c'est l'une des véritables spécialités de ce beau pays qu'est la France. Nous parlons de quoi ?
Du vin ?
De la gastronomie ?
Non. Du fromage ?
De la gastronomie ? Non.
Ah bon ?
Ah, de cinéma ?
Du tourisme ?
De la mode ?
Non. Non, vous ne trouverez pas.
Ah bon ?
Nous parlons de chenilles.
En effet.
Oui, c'est vrai.
La chenille oui. Qui
c'est vrai ou c'est pas vrai ?
Oh, la bande
c'est vrai
à
que
Basile.
Quand on dit partout dans le monde la France... Tout le monde nous dit
le Banja Basile.
La chenille.
Alors, cette info, je l'ai lue dans le Patriote Beaujolais. Nous sommes à Saint-Didier-sur-Chalaronne.
Oh, Saint-Didier.
À ne pas confondre avec Saint-Étienne-sur-Chalaronne,
ni
avec Châtillon-sur-Chalaronne.
Oui.
La Chalaronne étant un cours d'eau de la Dombe, et ça, c'est de la Dombe, bébé, comme on dit dans le 9-3.
Exactement.
Ouais. C'est lundi, 16h07.
Ouais, ouais.
Je pense qu'on est mal barré.
Cette info, c'est de la Dombe.
Oui, bah, on l'a compris.
C'est la deuxième blague. Bref, Saint-Didier-sur-Chalaronne est une petite commune où les désidériennes et désidériens, le gentilé, ont tenté de battre le record du monde de la plus grande chenille. Je dis bien « ont tenté ». Car ils ont échoué. Il n'était qu'un peu plus de 2000 pour réaliser cette chenille. Or, le record du monde, il est détenu par la ville de Rouen, où ils étaient 3900 pour cette chenille. Et je ne vous dis pas la taille du papillon. En attendant, ça c'est pour après.
D'accord.
En attendant, il y a quelques secondes, j'ai joint Renaud Dumais, c'est le maire de Saint-Didier-sur-Chalaronne. Il nous explique comment tout s'est passé.
Alors en fait, on a beaucoup communiqué hein, dans les alentours. On est une commune du Val-de-Saône à la croisée de deux autres départements, le Rhône et la Saône-et-Loire. Et c'est vrai que quand on s'est inscrit à ce record du monde, on avait un total de 1340 à battre. On a mobilisé les troupes pour essayer de se battre ce record. Et entre-temps, la ville de Rouen a fait faux bond et a battu ce record en atteignant 3 940 personnes. Coûte que coûte, la commune de Saint-Dié n'a pas baissé les bras et on a essayé de tenter ce record de 3 940. Et avec un village de 3 100 personnes, on est arrivé à 2 063 personnes. Le comptage qui a dû être arrêté par manque de monde qui a pris part à la chenille, malheureusement.
Mmh. Bon, vous avez retenu, hein, bon, plus, moins, moins. C'est énorme. Ouais, c'est
les belle. Autres, ils ont fait un coup dans le dos, là.
Bah,
ils sont partis faire leur chenille.
On appellera Rouen
cette semaine. Ils sont partis faire leur chenille dans leur coin, là.
On appellera Rouen cette semaine. En attendant, monsieur le maire a promis de remettre ça l'année prochaine. Mais comment mobiliser les troupes? On écoute sa réponse.
Rien que dans nos villages, il n'y a pas assez de monde pour battre ce record. Pour autant, une ville comme Saint-Brieuc a battu à 1340 personnes. Un village comme nous à 3100, on a atteint les 2100 personnes. Il est certain, et je ne baisse pas les bras, et c'est la raison pour laquelle je me suis engagé. C'est vraiment, il faut aller de l'avant. On va communiquer davantage en cours dès le début de l'année 2024, de manière à faire venir un maximum de monde à ce festival et pouvoir participer à ce défi loufoque pour faire parler de nous sur les radios ou sur les antennes de télévision.
Premier défi relevé. Voilà. On a parlé d'eux.
On parle d'eux sur Europe 1. Non, mais ce que j'aime, vous entendez, c'est cette conviction.
Il est déterminé.
A totalement
Monsieur
déterminé
le maire, il est déterminé. L'année prochaine, ce record, il est pour vous, chers amis de Saint-Didier sur Chalaronne.
Très bien. Une autre info, une autre gazette, Nicolas?
Mais oui, alors,
vous en avez sous le coude.
Bah oui, j'en ai sous le coude et sous la pédale. Dans le journal La Dordogne Libre, j'ai fait la connaissance de Nadège Tricard.
Ah bon?
Et les lois des Tricards, Nadège.
Oh, voilà.
Elle habite le bug.
Le bug.
Et il n'y a pas d'erreur, hein. Ni maintenant, ni en 2000.
Oh, le festival, mon Dieu.
Vous savez, le fameux bug.
Non, mais c'est bon.
Ah, okay. Alors, le bug, il est situé où? Il est situé sur la plaque nord du bassin aquitain et au bug Nadège, qu'est-ce qu'elle fait? Elle restaure les abat-jours. Son atelier est situé au numéro 40 de la Grand Rue et c'est là qu'elle rafistole vos vieux abat-jours déchirés, troués, abîmés. Son atelier, il est ouvert au grand public pour des visites et en y allant, Nadège partagera avec vous sa passion pour les abat-jours victoriens datant entre 1830 et 1900, des abat-jours rococo, des abat-jours gothiques. Voilà une belle mise en lumière.
Waouh, jusqu'au bout. Hein.
Abachou madame, abachou mademoiselle, abachou monsieur.
Voilà, écoutez, je ne sais pas si je vais terminer cette émission.
Mais on vient à peine de commencer, ce serait dommage.
Vraiment.
Accroche mes mains à ta taille, chez la chenille qui redémarre.
Non, c'est pas possible, c'est pas possible.
Il faut aller dans l'Ain. La Dombe, l'Ain, on parlait de Saint-Didier, c'est magnifique. Vous voyez, l'Ain, c'est une
rivière. Non, mais vous non plus, c'est pas possible. Là, on est sur du 15e degré, vous êtes hyper terre à terre. Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe de bras cassés? Avec oui, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Je ne sais pas. Je vais mener mon enquête et je vous tiens au courant.
C'est la date. Aujourd'hui, normalement, c'est un pont aujourd'hui. Donc voilà, c'est peut-être cet état d'esprit un peu particulier.
Non, mais n'essayez pas de vous rattraper. Ce sont des blagues pourries. Sont des jeux de mots qui valent même pas un centime.
Mais je pense que ça fait sourire, non? Je vous surprends. Vous avez à la commission d'élèves, voilà, vous souriez bien.
Non, je fais ça pour ne plus avoir de rides. Mais là, je suis désespérée. Je suis totalement désespérée. Je vous en supplie, ne me laissez pas seule. Restez avec nous sur Europe 1. On se retrouve pour la suite de cette arrivée près de chez vous. On va parler d'une initiative positive. On va parler de l'association Les Petits Frères des Pauvres qui ouvre pour l'été des oasis solidaires. On vous dit tout et plus encore, bien sûr, juste après ceci sur Europe 1.
C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
C'est arrivé près de chez vous, votre rendez-vous estival où, vous l'avez constaté si vous êtes avec nous depuis le début de l'émission, on rigole, voilà, on rigole, on s'amuse, on se détend, mais nous apprenons également des choses. Alors jusqu'à présent, on n'a pas appris grand-chose.
Un petit peu.
Nous allons apprendre encore plus de choses avec cette association, cette initiative positive, parce que tous les jours, on en met une en lumière dans cette émission. Aujourd'hui, c'est l'association Les Petits Frères des Pauvres qui ouvre pour l'été des oasis solidaires. Alors, pour mieux comprendre et pour tout savoir, nous avons avec nous le délégué général de l'association, à savoir Yann Lanier. Bonjour Yann.
Bonjour Bérénice, bonjour à toute votre équipe.
Bonjour.
Oh, ouais, et quelle équipe. Yann, les petits frères des pauvres, vous allez nous expliquer, peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas encore, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, et donc c'est pourquoi vous êtes avec nous là maintenant, pour l'été, les oasis solidaires que vous avez ouvertes, on trouve ça vraiment très très chouette. Il y a des personnes âgées qui sont toujours les plus fragilisés quand il y a des fortes chaleurs, et Dieu sait s'il y en a eu et s'il y en a encore dans certains endroits. Et votre association, les Petits Frères des Pauvres, a lancé cette idée d'oasis solidaire qui permet en gros, d'après ce que j'ai compris, de recenser tous les endroits entre guillemets plus frais pour que ces personnes puissent venir. Est-ce que c'est à peu près bien résumé? Mais vous pouvez aller dans le détail, Yann.
Alors, c'est déjà très bien résumé, Bérénice, mais je vais vous donner quelques détails. Tout d'abord, 2023, c'est une année d'anniversaire. Alors, un anniversaire ou une commémoration, plus exactement, pas des plus gais, puisque nous sommes 20 ans après la première grosse canicule, celle de 2003, hein, qui avait créé un grand émoi dans le pays. Et force est de constater que depuis 20 ans, on s'est habitué, alors à la fois à des canicules, et puis de plus en plus, même sur Europe 1, vos collègues de la météo différencient les canicules et les vagues de chaleur. Alors, je comprends tout à fait les gens qui m'écoutent sur le nord de la France depuis 4 semaines. La canicule, ils l'attendent un peu. Enfin, je ne sais pas s'ils l'attendent, mais en tout cas, ils ne la voient pas. Mais il y a beaucoup de départements sur lesquels la chaleur est intense. Et les personnes qui souffrent le plus des chaleurs intenses, ce sont bien entendu les personnes les plus vulnérables. Et parmi les plus vulnérables, les personnes âgées, et notamment les personnes âgées à domicile. Contrairement à une idée des fois reçue, l'immense majorité des personnes âgées vit chez elles. Et les logements, notamment dans les grandes métropoles, ne sont vraiment pas adaptés aux vagues de chaleur. C'est pour ça que nous, on s'est dit, écoutez, il y a beaucoup d'entreprises qui sont aussi des endroits climatisés. Il y a beaucoup de personnes qui, des fois, ont des bouts de jardin, un petit espace de fraîcheur. Alors, on a juste fait un petit kit. Ça s'appelle, comme vous l'avez dit, les Oasis Solidaires. Vous pouvez le télécharger sur le site de l'association. Vous êtes une entreprise, vous êtes un particulier, eh bien, vous pouvez, selon des modalités que vous décidez, que vous déterminez, ouvrir un espace de fraîcheur, une oasis solidaire à des moments de la journée. Alors, on a lancé ça au mois de juin, et effectivement, on a beaucoup de communes, on a beaucoup d'entreprises qui ont décidé d'apposer cette petite vitrophanie sur leur porte et de permettre, dans le quartier, dans la rue, tout simplement, à des personnes âgées de venir profiter du frais tranquillement, parce que quand on y pense, les endroits frais, gratuits, où vous n'avez pas forcément une incitation commerciale, vous allez me dire, il y a les cinémas, il y a les galeries marchandes, mais sans incitation commerciale, c'est rare et c'est absolument utile de faire cela.
Alors, vous parlez drôlement bien, Yann, on vous écouterait pendant des heures. C'est la première année que vous avez lancé ça. Donc, vous nous l'avez dit, il y a des communes qui ont adhéré et qui ont emboîté le pas à cette initiative. Mais est-ce que vous avez déjà un retour des personnes les plus vulnérables? Est-ce que ces personnes-là ont répondu présentes?
Oui, alors ça se met en place, c'est encore, vous savez, quand vous êtes dans une rue, que vous avez très chaud chez vous et que vous savez qu'il y a... Moi, je prends toujours l'exemple du restaurant d'entreprise. Vous savez, un restaurant d'entreprise, ça sert globalement 2h30, 3h par jour, c'est climé toute la journée et donc... Devant ces problématiques d'avancée en âge et de vieillissement de la population, de toute façon, il va falloir multiplier les initiatives solidaires et citoyennes parce que l'État ne pourra pas tout faire. Je ne vais pas vous asséner de chiffres, on se pond du 15 août, mais les 75-84 ans, par exemple, pour ne prendre que cela, c'est une population qui va doubler dans les 7 ans à venir. Nous avons aujourd'hui 4 millions de 75-84 ans dans le pays, ils seront 6 millions en 2030. Donc, nous allons faire face à un vieillissement colossal de la population, donc des vulnérabilités qui vont augmenter, il va falloir mettre en œuvre des dispositifs. Vous avez, en introduction, Bérénice, vous vous demandiez si toutes les personnes connaissent l'action des Petits Frères des Pauvres. Les Petits Frères des Pauvres, c'est une association qui existe depuis 75 ans et qui lutte contre l'isolement social des personnes âgées les plus vulnérables. Faut savoir que dans notre pays, 530 000 personnes de plus de 60 ans sont en situation de mort sociale, c'est-à-dire non de contact avec personne, et 2 millions de personnes de plus de 60 ans sont en grande fragilité concernant leur cercle relationnel. Donc, cette oasis solidaire, c'est aussi, au-delà de la fraîcheur, le moyen de permettre à des gens de rompre l'isolement social, de retrouver du contact. Et il faut vraiment que tous les citoyens puissent se dire que, dans l'avenir, nous avons tous un rôle à jouer dans cette lutte.
Yann, vous avez encore un petit peu de temps à nous consacrer, parce qu'évidemment, on est très intéressés, on a envie d'en savoir un petit peu plus.
Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1. Comme tous les jours, nous parlons d'une association qui fait bouger les lignes. Et c'est le cas des petits frères des pauvres qui ouvrent pour l'été, qui a ouvert pour l'été, des oasis solidaires. Nous sommes avec le délégué général de l'association, à savoir Yann Lanier. Yann, je sais que vous êtes toujours avec nous. Eh bien, figurez-vous, vous avez suscité énormément d'intérêt ici en studio. Avec Pierre Galibert qui a une question, j'espère, très pertinente à vous poser.
J'espère qu'elle est pertinente. Yann, vous évoquiez tout à l'heure la mission première des petits frères des pauvres, c'est-à-dire la lutte contre l'isolement social. Alors concrètement, par définition, la personne isolée, elle ne va pas forcément venir vers vous. J'imagine que c'est vous qui allez vers elle. Et comment vous faites ?
Alors, le repérage, merci Pierre pour votre question, elle est tout à fait pertinente, effectivement.
On ne connaît pas.
le repérage est vraiment quelque chose, effectivement, de complexe hein, dans notre pays, parce que, tout d'abord, l'isolement social, ça concerne les personnes âgées, mais ça existe à tous les âges de la vie. Mmh. Vous avez des adultes isolés, vous avez des enfants isolés, vous avez des mamans solo isolées. Mmh. Repérer les personnes isolées, c'est quelque chose de complexe. Cette fameuse canicule de 2003 avait permis de mettre en œuvre un premier dispositif de liste canicule, c'est-à-dire que des personnes allaient se signaler à la mairie en disant, ben voilà, moi je suis vulnérable, s'il se passe quelque chose, ben vous pouvez peut-être, enfin, sachez que je suis d'accord pour qu'on prenne de mes nouvelles, qu'on vienne m'apporter de l'eau, etc. Mais on parle de majeurs, en tout cas quand on parle de personnes âgées, et donc ben vous avez, et c'est heureux encore, la liberté de pouvoir vivre sans que on vous signale sans votre autorisation. Donc vous voyez, c'est là que c'est complexe. Donc nous, tous les jours, nous avons des services sociaux, des fois des familles aussi hein, qui contactent nos équipes. On a 380 équipes de bénévoles qui agissent sur le territoire en nous disant ben, ici, dans cette ville, vous avez une personne isolée, mais repérer l'ensemble des personnes isolées est encore quelque chose qui est balbutiant et sur lequel il faut travailler.
D'accord.
Dans le respect de la liberté des personnes.
Nicolas, vous aviez une question pour Yann.
Oui.
Vous l'avez toujours ?
Je l'ai toujours.
Peut-être qu'elle sera moins bien que la mienne, Yann.
Certainement. Certainement. Yann, vous nous présentez ces fameux oasis solidaires où il faut mettre donc à disposition de ces personnes touchées par la canicule, des lieux frais. Mais est-ce qu'il faut aussi s'inquiéter de leurs occupations ? Est-ce qu'il faut aussi les occuper ?
Ben, vous savez, ça vient tout seul en général. Quand il y a eu cette canicule en 2003, on a créé très rapidement la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et puis très vite, le Premier ministre de l'époque a proposé qu'il y ait un jour férié qui soit en fin de compte travaillé. Mm-hmm. C'est le fameux lundi de Pentecôte, vous savez, qui est aujourd'hui, alors sous des formes diverses selon les entreprises, travaillé. Ça a permis de financer cette Caisse nationale de solidarité et d'autonomie et notamment de créer des espaces fraîcheurs, des lieux frais dans tous les EHPAD. Donc aujourd'hui, la question, c'est plus tant dans les maisons de retraite ou dans les EHPAD, mais bien à domicile, où là, vous avez vraiment, quand vous avez des personnes qui habitent un cinquième étage sous les toits à Paris, par exemple, c'est très joli, les toits en zinc parisiens, mais il fait 10 degrés de plus que dans un appartement classique pendant une forte période de canicule. Donc nous allons, dans les années à venir, être face vraiment à une vraie problématique là-dessus. Quand vous ouvrez votre entreprise, quand vous ouvrirez le restaurant d'entreprise d'Europe 1 aux personnes qui sont autour de chez vous, ben vous verrez que les conversations se feront tranquillement. Il ne s'agit pas de mettre en œuvre des activités, mais simplement laisser de l'eau à disposition.
Voilà, de l'eau ou des livres. Voilà. Quelques revues. Ici, dans la maison, il y a quelques magazines.
Ça, je pense que vous manquez pas de livres et de magazines.
Ben ouais. Non, mais c'est une bonne idée.
Mais vous voyez, il faut... Puis vous savez, après, le lien social, on est des animaux sociaux, tous. Après, quand vous perdez le sens du lien social, il faut des fois un petit peu de temps pour le retrouver. Mais allez, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas et ça peut, si c'est sollicité, ça peut revenir vite. Ça me permet juste aussi de vous dire que sur les questions de l'eau, vous avez en ce moment dans notre pays, sur 33 000 communes, 100 communes qui sont en grosse problématique d'eau. C'est-à-dire qu'au-delà de la canicule, nous allons aussi avoir des problèmes dans certaines communes et dans certains coins de France de livraison en eau potable des habitants. Donc il faut se préparer à tout ça.
Dites-moi Yann, merci beaucoup. Voilà, nous on ne peut pas faire grand-chose si ce n'est déjà en parler sur Europe 1 et puis dire à toutes les personnes qui disent tiens, on pourrait mettre... Et peut-être ici la direction d'Europe 1 qui écoute et qui se dit ce serait une bonne idée. J'imagine qu'on va sur le site des petits frères des pauvres. Et puis je voulais aussi dire que là, la radio, ce que nous sommes en train de faire, on ne sauve pas des vies, mais on peut aussi éviter l'isolement social avec la radio. C'est important, la radio. Moi, je défendrai toujours la radio parce que c'est vrai qu'on est peut-être chez vous, qui êtes tout seul chez vous, mais vous êtes un petit peu moins seul avec nous. En tout cas, on vous embarque avec nous à tout moment de la journée. Et si vous aimez faire un peu les foufous, là, vous êtes bien tombé sur Europe 1. Merci beaucoup, Yann. Très bel été et vraiment encore bravo pour ce que vous faites. Mais c'est moi la meilleure. Voilà, comme ça c'est dit. Il est déjà parti. Voilà, il a fait du taf. Je voulais mon petit compliment, mais il est déjà parti. Allez, restez avec nous parce qu'on se retrouve dans quelques instants avec vous, Jules. Vous êtes allé farfouiller dans. Oui, je vous réveille pas.
Non, j'étais passionné parce que vous étiez. Je buvais vos paroles.
Oui, c'est ça. Vous avez fait un petit tour dans vos archives, des archives d'infos insolites. On se retrouve pour le quiz qui s'est passé. Restez avec nous sur Europe 1.
C'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
C'est arrivé près de chez vous, votre rendez-vous estival de l'après-midi. Nous sommes ensemble, nous sommes avec vous, vous qui nous écoutez sur Europe 1. Vous avez bien fait, vous avez bien fait. Alors, je tiens à vous prévenir, ça peut surprendre. Dans un râle que vous venez d'entendre, Jules est allé farfouiller dans ses archives. Des archives pas fraîches du tout, mais insolites, certes. Drôles, nous allons le constater ensemble. De toute façon, ça, c'est tout à fait subjectif. Exactement. Et puis, nous allons devoir deviner ici, et puis vous aussi qui nous écoutez, parmi les folles histoires que vous allez nous raconter, parmi elles, il y en a une qui est véridique.
Qu'est-ce
qui s'est passé, Jules, à Paris ?
À Paris, le 5 mars dernier, donc de l'an 2023.
Hein, l'an 2023.
Plusieurs milliers de coureurs ont participé au semi-marathon de Paris. Voilà, terminer le parcours de 21,1 km, c'est déjà une performance en soi. Hein, le meilleur temps, c'est de 1h06 et de 1h06 et 1 seconde. Hein, c'est beau, mais pour moi, c'est un temps de cuisson. Ça, hein, c'est pas du tout un temps. Voilà. C'est une viande mijotée voilà, ou bien le temps minimum pour refaire des glaçons. Bref, ce 5 mars dernier, il y a des gars qui ont fait des performances insolites lors de ce semi-marathon. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est sportif. Petit A, trois possibilités. Petit A, un Français a choisi de faire les 21 km en courant avec des chaussures de ski. Petit joueur, ma sœur l'a fait en snowboard. Petit B, il y a un gars qui, je sais pas, il n'a pas compris le principe du semi-marathon, hein, puisque c'est la moitié d'un marathon, hein, vous l'avez compris.
Il l'a fait deux fois.
Oui, arrivé au bout, dès la course, il a fait demi-tour, il est reparti en sens inverse. Et voilà, il a trouvé l'arrivée, un petit peu arrogant, c'est sportif. Ou alors petit C, le mec a fait le parcours du semi-marathon en moonwalk. 3h46, pas mal, hein, le moonwalk, ok, bon, tu te déplaces pas vite, mais quand même, ce qui aurait été vraiment impressionnant, c'est de le faire en Madison, vous voyez ?
Ouais.
Voilà, avec ça, tu pars le dimanche matin, le mardi, si t'as fait 100 mètres, tu peux déjà sabrer le champagne.
Mais moonwalk, donc, ça veut dire à l'envers ?
Absolument.
Okay.
Mais pas seulement à l'envers, parce qu'on a vu qu'il y avait un gars qui avait monté une montagne
dans les Alpes.
Il était parti en marche arrière en courant, mais là c'est en arrière et en moonwalk.
Et en moonwalk, ouais, voilà. d'accord.
Petit A, les chaussures de ski. Petit B,
il a fait demi-tour. Il est reparti. Ouais.
Petit C, le moonwalk.
Ah, moi, j'hésite entre deux. Nicolas.
Mais moi, je suis très Michael, donc je dirais moonwalk.
Moonwalk.
Ouais, ouais. Maître, Pierre.
Moi, je veux juste revenir sur les temps de cuisson que vous évoquez tout à l'heure. Alors, c'est plus un semi-marathon, c'est un semi-marmiton. Voilà. C'est tout ce que je voulais
pas
dire.
Mal,
elle est
mal,
mignonne, elle va bien. Elle va bien. Non, c'est...
Ouais, allez-y. Oui. Et donc, vous...
Alors moi, écoutez, je suis joueur, les chaussures de ski.
Oui, pourquoi pas.
Ah, moi j'hésite entre les deux. Chaussures de ski ou moonwalk. Je vais dire moonwalk parce que je suis très Michael aussi.
C'est la chaussure de ski. Hey, ah là 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 là. Pierre Delacoue a chaussé ses chaussures de ski. Il a parcouru le marathon en 2h02 et 30 secondes, ce qui est pas mal. Mais attention, il y avait un autre farfelu. Le Français Philippe Grassiette a réussi à boucler le semi-marathon en signant un bon chrono de 2h40 secondes, soit une allure de 5,43 km par heure. Et il est monté sur des échasses. Voyez-vous, il a fait tout ça sur des échasses.
Ça il leur peut aller plus vite.
Et pour...
Il fait,
il fait plus grands pas.
Mais c'est certainement plus facile en échasses qu'en chaussures de ski, quand même,
j'imagine. En tout cas, il a mis plus de temps ou pas non, il a à peu près la même chose, à 2 minutes près. Voilà, il y a des gars comme ça, ça leur prend le matin, ils se lèvent, ils disent tiens chérie, on n'avait pas des échasses à la cave, celle de Papy Boukta, oui, bah ok, bah je vais le faire, je vais faire le marathon de Paris avec. Tiens, pour rigoler, j'ai même prendre un raccourci, j'ai les raccourcir une de 30 cm, comme ça je me casse la gueule, ça serait bien sympa. Voilà. Et puis avec une petite poignée de gravier dans les godasses, ça fait toujours plaisir. Voilà.
Ça c'est bien. Bon, un autre quiz qui s'est passé, Jules.
Ah bah si on a le temps, c'est avec le plus grand ravissement que je vous emmène à Albi.
Qu'est-ce qui s'est passé à Albi?
Eh bien, nous sommes dans le Tarn, numéro 81, n'est-ce pas, en Occitanie. Oui. Dans la tiède nuit de cette mi-octobre 2022, les policiers ont contrôlé un jeune homme de 16 ans qui s'adonnait à une activité pas commune devant la prison d'Albi. Qu'est-ce qu'il foutait? Le gamin. Petit A, trois possibilités. Le genou, le matru, comme on dirait chez moi à Lyon, lançait des insultes aux prisonniers. Hein, et on n'était pas sur le registre fleuri du capitaine Archibald Aldock, je vous préviens. Apparemment, il était ravi de discuter avec son père qui était dans la prison et lui disait tout le bien qu'il pensait de lui. Voilà, simplement, quand on a un porte-voix électrique, on court le risque d'être entendu de tous les prisonniers et puis de tout le voisinage.
Oui, bah oui.
Le voisinage qui lui a rendu ses insultes. Et donc, il a fini par insulter tout le monde dans le quartier pendant une heure avant de se faire arrêter par la police. Petit B, le jeune Toulousain, le minot, hein, comme on dirait probablement, là-bas était lui aussi fâché contre un prisonnier. Il avait apparemment repéré la fenêtre de sa cellule et lui lançait non pas des insultes, mais directement des javelots, hein, voilà. directement,
javelot.
Voilà. Apparemment, il était très, très fâché. Ou alors, petit, c'est dans un but qui restera à la maréchaussée de définir, le minot jetait des pommes de terre. Voilà, c'est peut-être ainsi qu'on livre les patates à Albi directement par la fenêtre ou dans la gueule, je ne sais pas. Voilà. Petit A, donc, les insultes. Petit B, un javelot ou des javelots. Petit C, de la patate.
Maître.
Moi, je dirais des insultes.
Oui. Des insultes, ouais, bien, ça les paraît insultes. Tellement classique, Nicolas.
Oui, les insultes, c'est plaisant, mais à un an c'est des vrai. JO, le javelot.
Oh, le javelot.
Oui, il faut bien s'entraîner à un moment.
Moi, je dis pommes de terre.
Eh bien, vous avez raison, les patates.
Ah,
effectivement. Le jeune de 16 ans, interrogé par la police, qu'il observait depuis un moment sur les caméras de surveillance. Alors, je vous le dis, si l'idée vous venait de faire l'andouille autour d'une prison, c'est un endroit où il peut y avoir des caméras. Hein. Voilà, enfin, moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est une idée comme ça que je me fais. Bref, le jeune a expliqué qu'il s'exerçait au lancer de patates. Sûrement un marathonien aux idées saugrenues. Hein. Il n'y a pas des échasses par hasard. Bref, mais le policier ne sont pas des lapins de 3 semaines. Et remarque qu'il reste une patate dans la poche du gamin. Une patate apparemment prévue pour assaisonner les plats, puisqu'elle était aux herbes. Correction, une patate à l'herbe. Reconnexion, une boule de cannabis destinée aux prisonniers qui avaient probablement l'intention, sinon de passer par-dessus le mur d'enceinte, au moins de planer un peu.
Ah, donc du.
Depuis la rue, le gamin.
Mais dans les pommes de terre. Il mettait ça dans les pommes de terre.
Voilà, il avait fait des petites boules.
Qu'il avait incrustées dans les pommes de terre.
Et puis il jetait les patates dans la cour.
C'est
Et comme ça, on pouvait récupérer les pommes de terre.
C'est malin,
et
puis, quoi.
Ils n'ont pas fini par se friter, j'espère.
Et ils se sont totalement frités.
Oh là 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 là.
Et oui.
Ouais.
Ne jetez pas les pommes de terre dans les prisons, ça ne se fait pas.
Bah non, mais.
Ni de la purée, d'ailleurs.
Non, ni des grains de maïs.
Ne jetez rien, d'ailleurs, probablement.
Non. Parce que les grains de maïs, ici, il fait chaud.
Je crois qu'elle va partir sur les grains de maïs, attention.
Ça fait du pop-corn.
Ah, voilà, voilà.
Exactement.
Et il y a le sucré ou le salé.
C'est vrai.
Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
Tous les après-midi sur Europe 1, on s'amuse, on se détend, on rigole beaucoup, ça c'est vrai. Mais nous sommes également là pour apprendre. C'est donc l'heure. Eh ouais. La récré, c'est fini. Enfin, pas longtemps, hein, je vous rassure tout de suite. La récré, c'est fini parce qu'elle a fait son entrée dans le studio. C'est Clara Léger, notre maîtresse. Bonjour Clara.
Bonjour Bérénice, bonjour à tous.
Bonjour Clara.
Maîtresse.
Bonjour Clara.
C'est l'heure de faire nos devoirs de vacances et vous allez une fois de plus nous faire découvrir une nouvelle expression de nos régions.
Nouvelle semaine, nouvelle tentative pour remporter le plus de bons points possible. Puisque je le rappelle, je vous propose un quiz pour deviner le sens d'une expression régionale. Alors vous commencez à avoir un petit peu l'habitude. À chaque bonne réponse que vous donnez, vous obtenez un bon point. À chaque mauvaise réponse, c'est un mauvais point. Vendredi, donc, à la fin de la semaine, celui qui a le plus de bons points remporte le cadeau de la semaine.
Ah.
Évidemment, vous trépignez d'impatience.
Bah, évidemment.
Oui, 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 oui.
Cette semaine, je vous offre la compilation des imitations d'Yves Montand que Pierre Galibert a fait tout l'été sur Europe 1.
Oui,
accroche mes mains à ta taille, chez la chenille qui rémarre.
Oh non, voilà. Non, c'est pas possible.
Sur une cassette.
Sur une cassette.
Sur une cassette.
Sur une cassette.
C'est à la mode. C'est à la mode.
Audio.
Il y a combien d'extraits?
Vous verrez.
Et mes royalties.
Ah bah ça vous regarde.
Ok, moi je joue pas.
Expression du jour. Que signifie le verbe débaucher? S, réponse A, sortir de boîte de nuit, ou réponse B, sortir du travail?
Ah, moi je sais.
Bon, alors ne donnez pas la bonne réponse
moi
tout de suite.
Je sais.
Moi aussi je sais.
Moi je sais pas.
Donc, alors Nicolas, qu'est-ce que vous dites?
Mais sortir de boîte de night.
Très bien. Pérénice?
Débaucher, c'est aller débaucher quelqu'un, c'est un verbe qui existe, mais c'est.
Oui. Et donc?
Ouais, boîte de nuit.
La boîte de nuit, très bien. Jules Pierre.
Le travail. Ben non, vous êtes trompé.
Ouais, elles se sont trompées. Voilà.
J'embauche et je débauche.
Exactement. Ah, c'est employé dans l'ouest de la France. Le verbe débaucher signifie sortir du travail, terminer sa journée de travail.
Ma petite entreprise.
On dit qu'on débauche quand on quitte le travail, et à l'inverse, on dit qu'on embauche quand on démarre sa journée de travail.
Oui, mais on va débaucher quelqu'un.
C'est autre chose.
C'est
mais alors, dans le sud-ouest.
C'est autre chose, c'est le même verbe, non?
Oui,
bien sûr.
Bon, ailleurs.
Bah alors, le même verbe peut avoir deux significations.
Voilà. Bah oui, mais alors il fallait me le dire.
Puisqu'ailleurs, dans le reste de la France, les deux verbes ont une autre signification. Débaucher, ça veut dire qu'on détourne quelqu'un de son travail et de ses engagements.
En boîte
de nuit. Embaucher, ça veut dire qu'on engage, qu'on recrute quelqu'un. Et d'ailleurs, si vous habitez dans le sud-ouest, vous pourrez confirmer, mais les habitants du sud-ouest, ils ne comprennent pas que le verbe débaucher ailleurs en France, ça n'a pas la même signification que chez eux. Pour eux, débaucher, ça veut dire je quitte ma journée de travail. Ça ne veut pas du tout dire je débauche quelqu'un.
Vous nous écoutez, vous êtes dans le sud-ouest.
Klaxonnez deux fois.
Appelez-nous. 0180 20 39 21. Envoyez-nous des messages au 739 21.
On veut savoir.
Il faut qu'on parle.
Je suis du sud-ouest.
On
vous embauche, oui.
C'était à partir du Moyen-Âge que débaucher était synonyme de partir. À partir du 15e siècle, embaucher était synonyme d'embaucher chez quelqu'un, donc de commencer le travail. Et en fait, ce sont de très vieilles expressions, mais qui sont restées seulement dans le sud-ouest de la France. Il y a une autre variante aussi qui est encore plus spécifique à Bordeaux, c'est l'expression « aller au mail ».
C'est à Dijon, non ?
Aller au mail. Aller au mail, ça désigne dans ce cas un travail qui est difficile, qui est laborieux, qui est vraiment peu plaisant à faire, ce qui n'est évidemment pas le cas quand on travaille avec une équipe aussi truculente que celle présente tous les après-midi.
Ça dépend quand, parce que là, depuis tout à l'heure... Ah, d'accord. Bah, dites donc... C'est bizarre, hein, c'est spécial. Mais bref, on aura appris, Nicolas, on aura appris quelque chose. Restez avec nous sur Europe 1. J'entends des choses très bizarres dans mon casque. Je vous explique tout. Et donc, dans mon oreillette, on me dit, il y a par deux fois, comme si je n'avais pas compris, il y a des bauchers et des droitiers.
Ah, pas mal. On peut savoir le nom de la personne qui vous souffle dans l'oreillette, s'il vous plaît.
Oui, il s'appelle Alexandre Omar, je donne son nom. Et juste après, je vous donnerai son numéro de téléphone où vous pourrez l'appeler et lui envoyer des messages. Allez, restez avec nous. Nous allons jouer. Surtout vous allez jouer. 16h43, vous aurez encore quelques minutes pour nous envoyer le mot « région » par SMS au 739-21 pour jouer et pour gagner, pourquoi pas, un an de vacances. On vous explique tout juste après la pause.
C'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
C'est arrivé près de chez vous. Figurez-vous que tous les jours, on s'occupe de vous, on prend soin de vous, parce qu'à la fin de l'été, on risque de vous offrir un an de vacances, à savoir 4 semaines de vacances pour 4 personnes, le tout en famille, grâce à LeBoat. Vous pouvez déjà aller faire votre itinéraire de ces 4 semaines de rêve sur leboat.fr. Alors, il y a tout à bord, il y a tout le confort, il y a des salles de bain, il y a la terre, et il y a même terrasse, cuisine équipée, tout pour les apéros. Wow. Et il y a même les draps et les serviettes qui vous sont proposés. Non, mais si c'est pas canon, ça.
J'ai trop envie de partir là-bas.
Oui, mais vous ne pouvez pas. C'est pour les auditeurs et uniquement pour les auditeurs d'Europe 1. Pour cela, vous inscrivez région 739-21 et vous jouez au quiz des régions avec vous, cher maître.
Vous devez deviner une région et la préfecture de cette région est la ville rose ou rose, ça dépend.
Donc c'est nous ici en studio qui devons deviner.
Oui, d'accord. Pour l'instant. La préfecture de région de la ville rose.
Ben, c'est Toulouse.
Oui, donc la préfecture de la région
Occitanie.
Occitanie, exactement. Dans ce département, nous y étions il y a quelques minutes avec Albi. Il y a la magnifique cathédrale Sainte-Cécile Albi et nous sommes dans le département du...
Tarn.
Exactement. Albi est la préfecture du Tarn et là... Nous allons dans la sous-préfecture tarnaise.
Ah, ça, c'est fastoche.
C'est Castres.
La ville de Castres a un patrimoine historique fort. Les maisons sur la goutte, emblème de la ville, sont au XVIIe siècle les demeures des tisserands, teinturiers, tanneurs, chamoiseurs et parcheminiers qui travaillent la laine, le cuir et le papier. Elles ont longtemps fait la richesse de Castres et affirmé sa première vocation industrielle, c'est-à-dire le textile.
Il y a plein de mots que je n'ai pas compris.
Non, moi non plus, mais on vous laisse parler, maître.
Un grand homme est né à Castres, il a marqué l'histoire contemporaine de notre pays. Il s'agit de Jean Jaurès. Jean Jaurès, député socialiste, principal dirigeant socialiste français, fondateur du quotidien L'Humanité, il a été assassiné en 1914. Absolument, en 1914. Alors là, première question, elle est pour vous trois.
Hein. Oui.
Où a été assassiné Jean Jaurès alors qu'il dînait petit A au Café du Croissant, petit B à la Brasserie de la Chocolatine ou petit C au restaurant de la Bonne Cook?
Café du Croissant.
Allez, Café
oui,
du Croissant.
Bravo, ouais. Effectivement. Ouais. Café du Croissant, situé au 146 rue Montmartre à Paris, à l'angle de la rue du Croissant. Et le bistrot du Croissant existe toujours. Il travaillait, il est descendu dîner avec un de ses collaborateurs et son assassin est arrivé. Son assassin se prénommait Raoul. Quel était son nom? Petit A, méchant. Petit B, vilain. Petit C, passage.
Raoul Villain,
vous êtes formidable, bravo, c'est effectivement la bonne réponse.
J'aime bien, c'est cool.
Et de nombreux hommages sont rendus à Jean Jaurès à partir de l'entre-deux-guerres. Ainsi, 429 établissements scolaires portent son nom aujourd'hui. Savez-vous qui arrive en tête des noms donnés aux établissements scolaires en France?
Mireille Mathieu.
Non, c'est
dommage. Jean Jaurès, Albert Camus.
Non,
Jean Moulin.
Il n'y est pas. Non plus. Jules Ferry arrive en tête, suivi par Jacques Prévert. Pardon, Jean Moulin est en troisième position.
Ah, voilà.
Excusez-moi. Et ensuite, en quatrième position, il y a Jean Jaurès. Et derrière, il y a Jeanne d'Arc, Antoine de Saint-Exupéry, Victor Hugo, Louis Pasteur, Marie Curie, Pierre Curie et Jean de La Fontaine.
Ah bon, et pas le Pierre Galibert.
Et non, pas encore.
Pas André Lassagne, rien du tout.
Pas encore.
Nous sommes à Castres.
Castres, c'est bizarre, Castres. Nous allons à Castres, enfin, surtout vous. Mais il n'y a pas que Maître Galibert qui peut poser des questions. Écoutez-moi bien, si je vous dis Magnolia
Forever.
Vous êtes pas mal. Et non, parce qu'on dit... Forever. Voilà. Donc c'était pas mal, mais là c'était pas bien. C'était pas bien du tout. C'était très mauvais.
Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
Je continue à faire ça comme ça.
Oui, non, c'est une troupe de la Comédie française.
Oui,
la comédie belge.
Ah, le théâtre Jean-Baptiste Poquelin. Nous allons à Castres. Nous sommes à Castres avec Christine. Bonjour Christine.
Bonjour Bérénice.
Enfin, bon, j'ai un petit peu menti, je vous l'accorde. C'est-à-dire que Christine, vous allez aller à Castres. Pour le moment, vous êtes près du Havre.
Oui, c'est ça.
À Octeville-sur-Mer.
Tout à fait.
Vous y êtes en ce moment, parce que je dis ça, vous habitez
oui.
Octeville. Mais
oui, oui.
Oui, pas de vacances, vous ne partez pas, vous êtes tranquille, c'est tellement beau chez vous que... Vous
dites... Voilà, c'est ça. Il y a énormément de soleil en ce moment, donc on bronze.
Oui, bah alors attention, avec de la crème, hein, faut se crémer.
Oui.
Faut se crémer, Christine. Vous aimez les balades, oui. Les voyages, les jeux. Ça tombe bien, vous allez jouer pour gagner peut-être, Christine, je ne sais pas si vous êtes au courant, un an de vacances.
Waouh.
Ah bah voilà, généralement c'est ce qu'on dit.
Ah, ou oui. Un panier gourmand.
Waouh. Ou un panier
aussi.
Gourmand aussi. Mais Christine, je sens la winneuse en Christine. Elle vise évidemment le gros cadeau. Est-ce que Castres, ça vous parle? Est-ce que c'est un endroit où vous dites « Oh tiens, j'y suis allée, j'ai de bons souvenirs » ou alors
jamais.
Jamais.
Jamais allée, non.
Ça va être votre première fois et retenez ça, on se souvient toujours de ces premières fois. Sans transition, je vous laisse avec Maître Galibert.
Christine, première question, un vrai ou faux? Les habitants de Castres s'appellent les Castrais. Vrai,
c'est vrai.
Ou faux? Oui,
c'est vrai.
Très très bien, très très bien. Un point. Parfait.
C'est Castrais, donc
les Castrais.
Le son est.
Oui, les Castrais. Mm-hmm. On est Castrais de père en fils.
Très bien.
Question numéro 2. Christine, quel est le point commun entre le château de Versailles et Castres? Petit A, des jardins. Petit B, la galerie des glaces.
Les jardins.
Oui, Christine. Effectivement, les jardins de l'évêché à Castres furent construits à la fin du XVIIe siècle par André Le Nôtre. C'est un jardin à la française, combinant des parterres en broderie de buée à l'anglaise. Le Nôtre fut jardinier du roi Louis XIV et eut notamment pour tâche de concevoir l'aménagement du parc et des jardins du château de Versailles. 3 points pour Christine, c'est bien. Question numéro 3. Avec 3 propositions de réponse, Christine, et 3 points en jeu. Après plusieurs années de fermeture pour travaux, le musée de la ville de Castres, musée d'art hispanique, a rouvert au printemps dernier. Quel est son nom? Le musée Goya, le musée Velázquez ou le musée Dali ?
Goya.
Oui, comment vous savez ça ?
Comment vous savez ça, Christine ? Bravo. Bah, elle a le droit de savoir, quand même.
Bravo, quel culture, bah, Christine.
C'est ce qui me sonnait le mieux à l'oreille, on va dire.
Ben, oui, parce raison. Que vous avez dit Velázquez, alors que c'est Velázquez.
Velázquez. Le musée Goya de Castres, avec le musée du Louvre de Paris, rassemble les plus grandes collections d'art hispanique en France. Il est magnifique, il faut aller le visiter. Quatrième question pour un sans-faute, Christine.
Christine, ouais. Elle est au taquet.
Concentrée, concentrée.
Elle est concentrée, elle est concentrée.
La troisième édition d'un festival aura lieu à Castres en avril prochain. S'agit-il, petit A, de
j'ai une petite idée.
Petit A, de Festi Rugby. Petit B, des Fous Rires de Castres. Petit C, de Castres Gourmand. Ou petit D, de la Biennale des Pharmaciens. Festi Rugby, les Fous Rires de Castres, Castres Gourmand ou la Biennale des Pharmaciens.
Oh, les Fous Rires de Castres.
Mais oui.
Oh
alors, le rugby et l'industrie pharmaceutique sont très importants à Castres, mais l'humour et la bonne humeur aussi. Les Fous Rires de Castres durent 3 jours. C'est un festival de café-théâtre qui grandit d'année en année. Rendez-vous fin avril pour la prochaine édition.
On va y aller, Christine.
Ah oui. Ah, bah, on va... j'adore l'idée.
On va y aller. Donc, c'est-à-dire qu'on rigole, on rigole. Partout dans Castres pendant 3 jours. Oh, je ris, je... Ça peut être agaçant. En même temps, Christine, 10 points.
10 points,
non,
Christine.
Non, mais 10 points. Alors, Christine, bravo. La vérité, Christine.
Oui.
Vous habitez à Castres, en fait.
Pas du tout, mais pas du tout.
Mais donc, mais il faut jouer, je sais pas, il faut aller faire une grille
d'auto. Il faut déménager.
Je vais y aller dès ce soir, oui, oui.
Ah bah, vous devez y aller, vous devez aller postuler à l'Office du Tourisme. Là, vous connaissez tout sur tout. Non, mais c'est magnifique.
Bon.
Christine, vous avez un peu
de
temps.
Ravie.
Ah bah nous aussi. Attendez, c'est pas fini parce qu'il y aura un autre candidat, une autre candidate.
Et si
oui, ça suffit maintenant, Christine. Non, vous n'avez rien dit depuis le début. Maintenant, ça suffit. C'est à moi, Christine. Vous allez être confrontée à un autre auditeur auditrice qui, si ça se trouve, va peut-être marquer 10 points également. Auquel cas, vous serez départagé avec une question subsidiaire. Bah là, Christine, elle est contente. Hein. Elle est contente, mais voilà, il faudra se retrouver dans la deuxième heure. Et d'ailleurs, si vous avez été imprégné par son enthousiasme, n'hésitez pas à venir jouer avec nous. On apprend des choses, mais on rigole aussi, et vous pouvez gagner un an de vacances. Pour ce faire, vous envoyez le mot-clé « région » par SMS au 739-21, suivi de votre prénom et de votre numéro de téléphone. Et on se donne rendez-vous dans la deuxième heure de cette arrivée près de chez vous.
Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
C'est arrivé près de chez vous tous les après-midi. Bien, tous les après-midi, on se balade un petit peu partout près de chez vous, que vous soyez en vacances ou non, sur votre lieu de villégiature ou au travail, on arrive près de chez vous. On apprend beaucoup de choses, on parle de vos régions, des traditions, des initiatives locales, des initiatives positives. Et on vous fait découvrir, notamment avec Nicolas Beutars, des anecdotes de tournage de films insolites. Alors, les anecdotes sont insolites et les films parfois peuvent l'être également. On va dans quelle région? On parle de quel film?
Finistère, Bretagne.
Ah.
Ok. C'est comme ça, moi je suis comme ça. Je suis comme ça.
Et donc ça rigole plus là. Finistère, Bretagne, point bas. On adore la Bretagne, vous le savez. Notre bon plan du jour, eh ben, je vous emmène en Guadeloupe. Ah. On va parler d'activités touristiques maritimes avec une base de loisirs nautiques éco-responsable à Morne-à-l'Eau. Et ça tombe bien. Ludovic Liboueur qui fait son défi de dépolluer les routes entre Paris et Marseille. On l'aura par téléphone tout à l'heure. On va lui demander évidemment où il se trouve. C'est notre rendez-vous quotidien. Tour de France aussi, il en est question avec Jules Bernard Leblon. Jules, et vos informations insolites, vous en avez encore sous le pied là?
Bien sûr, nous partirons à Brignoles dans le Gard.
Je vous ai pas posé la question.
Ah pardon.
Voilà, en parlant de questions, oui. Maître Galibert, vous en avez quelques-unes de questions à poser à un candidat, une candidate d'Europe 1.
Et nous allons partir du côté des Alpes et de l'Auvergne.
Des Alpes et de l'Auvergne.
Voilà, un petit peu côté Alpes, un petit peu côté Auvergne.
D'accord, très bien. Comme ça, vous voilà prévenu. En même temps, c'est vaste et vous allez jouer avec une ville, tout comme l'a fait Christine tout à l'heure, qui a marqué 10 points. C'est possible. Donc venez tenter votre chance. Vous envoyez région par SMS au 739 21 75 centimes, plus le coût d'un SMS suivi de votre prénom et de votre numéro de téléphone. Et à tout de suite.
Bérénice Bourgueil sur Europe 1, proche de chez vous et près de chez vous.
Cinéma ! Cinéma ! Oui, je sors, qui je suis ! Je suis cinéma !
Nicolas, qu'est-ce qui lui a pris à Benoît Poelvoorde ? C'était dans quel contexte ?
C'était dans le film « C'est arrivé près de chez vous ».
Voilà, oui.
Il a bu.
Oui, dans le film.
Dans le film, il a bu. Et puis alors on lui demande de sortir. Oui. Mais il chante fort, mm-hmm. et il est tard dans la nuit.
D'accord.
Voilà, je replace. Oui, oui, je sors, oui, je sors. Cinéma, cinéma. Voilà. Et toi, Gabin, fils de Lucien. C'est le reste de la chanson.
C'est le reste de la chanson qu'on ne va pas écouter en entier. Donc, Benoît Poulvorde, dans le film C'est arrivé près de chez vous, ça tombe bien, c'est arrivé près de chez vous sur Europe 1 aussi, on parle de cinéma. Et pour entamer cette deuxième heure, Nicolas, nous partons en balade. Donc on va au cinéma, je viens de le dire. Nous allons surtout visiter la France et ses lieux de tournage. Alors on va où? Vous l'avez dit, à mon avis, c'est dans le Finistère. Et à mon avis, on part en Bretagne.
En Bretagne, enfin, nous allons surtout en vacances à l'hôtel de la plage. Sheila.
Wow.
Dans sa période Be Devotion, avec ce tube disco, bande originale du film Hôtel de la plage de Michel Lang, sorti en 1978, avec au générique, entre autres, la toute jeune Anne Parejo, Guy Marchand, Sophie Barjac et Daniel Secaldi. Je dis entre autres parce qu'il y en a encore d'autres. Alors le pitch, il est tout simple. Cette histoire traverse les décennies avec notre plus grand bonheur. Revoyez ce film encore aujourd'hui, il n'a pas vieilli. Alors nous sommes en vacances, nous sommes au mois d'août, nous sommes en Bretagne. L'hôtel de la plage accueille ses habitués, des familles, des jeunes et des moins jeunes, des ados qui espèrent rencontrer un premier amour et des adultes qui espèrent tromper le temps, mais aussi espèrent tromper.
Espèrent tromper. C'est super, voilà, ça, comme projet de vacances.
Voilà, c'est ça. Sinon, il n'y a pas de film.
Elisabeth, j'aimerais bien qu'on se revoie.
Mais qu'est-ce qu'on fait tous les jours, à votre avis?
Oui, mais je veux dire d'homme à homme, d'homme à femme.
D'homme à femme, je vous comprends de moins en moins.
Elisabeth, je suis dingue de vous. Je dors plus, je mange plus, j'en peux plus. Elisabeth, j'ai envie de vous embrasser.
Oui, mais bon, voilà. Mais oui, mais c'est un adolescent. Bon, l'hôtel de la plage, vous devez savoir, il existe réellement. Nous sommes en réalité au grand hôtel des bains de Lochirec, dans le Finistère. Alors, vous connaissez mon professionnalisme. J'ai vérifié, il reste une chambre double supérieure, vue sur mer, pour cette nuit, à 306 euros.
Oh, je ferais bien...
On y est.
Oui. Et à ce prix-là, si on y va à 4...
Oui,
on
faudra serrer. Il faudra serrer.
Non, vous dormez dans la baignoire.
Ah, ok. Bon. Faudra
une bonne
bon matelas. Alors cet hôtel, il est idéalement situé entre la superbe côte de Granit Rose et la côte sauvage. On y vient chaque été pour sa tranquillité. Ce coin-là du monde, il est à l'abri de la foule, du bruit et de toute pollution. Entre charme et élégance, ça tombe bien. C'est un petit peu comme ça qu'on pourrait définir le film de Michel Lang.
C'est des tourteaux pour commencer, des crabes.
T'auras qu'à manger que la mayonnaise.
Oui, c'est pas bête. C'est vrai, c'est pas bête.
Avec du pain.
C'est ce qu'on dit aux enfants.
Mais c'est pas bête.
Alors, qu'est-ce que c'est bon.
Mais
pourtant.
Oui. Oh là là. Ah, le tourteau.
La mayo.
Ah, mais non, non, le tourteau. Le tourteau. Avec de la mayonnaise. Alors, outre sa gastronomie, le petit port de Lochirec est aussi réputé pour ses randonnées. Alors, je ne peux que vous conseiller une balade sur le chemin des douaniers, un chemin d'une beauté époustouflante. Alors, juste comme ça, on y trouve des tombes datant de l'âge de bronze, des enclos paroissiaux, des thermes gallo-romains et quelques-unes des plus belles plages et criques de France. Alors côté sport plus intense, si vous aimez ça, il est possible de faire du surf ou du paddle depuis la plage de Porse-Arvillec. C'est juste à côté de l'hôtel. Et je vous le disais, nous devons ce film, l'hôtel de la plage, à Michel Lang. C'est le réalisateur d'un autre grand succès populaire.
Je le sais, j'ai pas trouvé.
Bah, c'est à nous les petites Anglaises.
Bien sûr.
Et voilà, donc deux films qui se regardent, mais qui s'écoutent aussi tellement leurs BO sont cultes. Vous vous souvenez de ce tube de Morshoman? On l'entend aussi dans l'hôtel de la plage.
Il est dans les deux films?
Morshoman?
Ouais.
Oui. Il fait la musique.
Oui, mais pas deux fois la...
Pas ce tube-là. Alors, à propos de chansons, j'ai une petite interview d'époque. Une interview de Guy Marchand, qui, sur le lieu du tournage du film, nous expliquait pour lui l'importance d'une bande originale réussie.
La musique de film, c'est très important. Moi, je considère que c'est très important, d'abord, parce que j'aime la musique tout court, et les films en particulier. Je pense qu'il est très important qu'il y en ait, et que par moments, il n'y en ait pas, un peu comme dans la vie. On a une musique intérieure, toujours, qui rythme les sentiments... des espèces de points d'orgue, puis quelquefois c'est le silence complet.
Son d'époque. Hein.
Son d'époque, ah, je vous le dis. Allez, une dernière info sur le Kirek. Station balnéaire et lieu de tournage historique, hein, vous l'avez compris. Vous devez savoir qu'historiquement parlant, le Kirek serait l'une des plus vieilles communes de Bretagne. On y a retrouvé des ossements datant de la préhistoire, soit deux squelettes datant probablement de l'âge de la pierre polie, époque bénie, où les pierres disaient toujours bien le bonjour.
Je m'attendais à un truc.
Oui.
Et, là, parce que, mais, voilà, et puis je dis non.
Mais l'âge de la pierre polie,
c'est un véritable
âge.
Mais bien sûr. Mais bien sûr, bien sûr. On a bien compris.
Mais les pierres sont toujours polies.
Oui. Voilà. Les pierres comme vous. Oui, c'est ça, c'est ça que vous voulez dire. Non, oui. Parce qu'il faut. Parce que vous appelez. Maître, c'est pas votre prénom.
Non.
Non, voilà.
Mon prénom, c'est juste. C'est juste mon prénom.
Il n'a pas de prénom. Non, c'est son titre. Allez, dans quelques instants, c'est l'heure de notre bon plan du jour. Je vous le disais, direction la Guadeloupe. On n'arrête pas de voyager dans cette émission. Et bah, c'est un petit peu le but. Une activité touristique maritime avec une base de loisirs nautiques éco-responsable. La suite de cette arrivée près de chez vous, c'est sur Europe 1.
C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
C'est arrivé près de chez vous tous les après-midi jusqu'au 25 août entre 16h et 18h du lundi au vendredi avec tous les jours un bon plan. Donc c'est le moment de prendre des notes, un bon plan qui s'est passé près de chez vous. Alors, nous sommes le 14 août, oui. Voilà, c'est peut-être le pont, long week-end pour certains. Et d'aucuns vont rentrer parce qu'après le 15 août, pour beaucoup, bah, c'est le moment de la rentrée. Mais pour d'autres, des petits malins qui partent en vacances un petit peu plus tard. Et peut-être que vous allez partir en Guadeloupe, ce serait une bonne chose. Bah tiens d'ailleurs, on entend là, il y a un petit peu de vent en Guadeloupe, avec Hélène Poirier qui est avec nous. Bonjour Hélène.
Bonjour Bérénice, bonjour à tous.
Bonjour Hélène.
Alors Hélène, je vous présente, vous êtes directrice de projet. Voilà. Et on va parler.
Exactement.
Mais on va parler d'activités touristiques. Et donc, je m'adressais à tous les auditeurs, toutes les auditrices d'Europe 1 qui vont peut-être venir vous rejoindre en Guadeloupe. Vous allez nous parler d'une base de loisirs nautiques éco-responsable. Et ça se passe à Morne-à-l'Eau. C'est quoi une base de loisirs nautiques éco-responsable? Même si j'ai une petite idée, mais est-ce que vous pouvez nous éclairer, ma chère Hélène?
Avec plaisir. Nautique Blue Caraïbes, en fait, notre mission, notre engagement, c'est de proposer des loisirs nautiques respectueux de la biodiversité. Donc, en fait, on a souhaité créer une base qui s'adresse à toute la famille, de 3 ans jusqu'à 107 ans, hein, en passant par les personnes en situation de handicap. Oui, 107 ans. Alors, pour l'instant, on a fait un concours.
Ouais.
Pour l'instant, notre plus ancien a 93 ans, mais on ne désespère pas d'avoir effectivement une personne de 107 ans, voilà. Comme ça, exactement.
Et alors cette personne de 93 ans, qu'est-ce qu'elle peut faire au Nautique Blue Caraïbes?
À Nautique Blue Caraïbes, en fait, on a de la motonautique, donc ce sont des engins 100% électriques, qui ont une vitesse modérée, donc qui se conduisent sans permis, avec une conduite qui est très intuitive, puisque comme je le disais tout à l'heure, ils sont adaptés aux enfants dès l'âge de 3 ans, accompagnés des parents. Et en fait, on navigue à peu près à 4 nœuds, donc ça va pas très vite. Et en fait, c'est idéal pour découvrir la mangrove. Donc au départ de chez nous, ils ont la possibilité de partir en balade. Et notre objectif, c'est qu'ils partent en balade en famille. Donc on a beaucoup de familles avec les petits-enfants et les grands-parents qui partent ensemble en balade pour des découvertes qui peuvent durer 50 minutes, 1h20.
Hélène...
Et on a aussi le pédalo assistance électrique.
Voilà, alors, Hélène, le pédalo assistance électrique ou alors ces petites motos-là, voilà, il faut rester dans l'éco-responsable. Donc on dit c'est électrique, donc il n'y a pas de carburant. Et au niveau du bruit également, c'est important pour la flore,
zéro
peut-être
bruit,
pas, mais la faune.
Justement. Exactement. En fait, c'est zéro carburant, zéro bruit. Et c'est ce qui nous permet en fait, de proposer des expériences exceptionnelles, puisqu'en fait, on est au cœur de la mangrove. On navigue dans le silence le plus complet. Donc, dans le meilleur des cas, on va entendre le rire des enfants et des grands-parents. Et puis sinon, ça sera le chant des oiseaux. Et puis, on va profiter du silence absolu d'une balade au cœur de la nature.
Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles aussi.
Exactement.
Ah bah oui,
c'est exactement.
Dites-moi,
ça.
Hélène, parce que là, vous nous racontez tout ça. Mais nous, on va fermer les yeux. Et est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous voyez précisément autour de vous, en espérant que ça nous fasse rêver, Hélène.
J'ai l'impression qu'on entend la mer. Peut-être que je me trompe, Hélène.
Alors, mais c'est exactement ça. Vous entendez effectivement les petits clapots. Alors, je suis à la base au moment où je vous parle. Oh. Si vous fermez les yeux, vous verrez. Alors, vous allez sentir les alizés. Une petite chaleur parce qu'effectivement on a un très beau temps en ce moment. Mm-hmm. Et puis bien évidemment là vous allez avoir le petit chant le frottement du cocotier, puisque je suis juste à côté d'un cocotier qui est chargé d'ailleurs, pour ne rien vous cacher.
Mais faites attention, c'est dangereux.
Et puis là, oui, je reste pas en dessous.
Ah bah, il faut pas rester en dessous d'un cocotier, hein. Jamais.
Exactement. Et là, justement, là, vous allez entendre. Donc, vous entendez la petite brise. Et dans quelques minutes, on va partir pour une petite balade au cœur de la mangrove pour une visite qui va durer 50 minutes. Donc, on va d'abord passer par la petite mangrove où là, on a une arche naturelle. Donc, on va traverser sous cette arche naturelle avant d'arriver dans un bassin avec la mangrove tout autour. Donc là, vous êtes complètement immergé. À vos pieds, vous allez croiser des étoiles de mer et des méduses. Ah, et puis vous allez partir tranquillement. Des méduses, je vous rassure, ce sont pas des méduses. Alors, en
elles
fait, étant donné qu'on est au cœur de la mangrove,
elles sont pas non,
pas du tout, pas du tout. Grand maxi, elles font 10 cm grand max, et en fait, ce sont des cassiopées qui, elles, en fait, on les appelle aussi des méduses retournées, parce qu'en fait, elles dorment là, donc elles n'ont plus le pouvoir urticant de celles qu'on peut croiser en pleine mer, et en fait, elles sont là comme ça à tapisser le sol.
Bon, vous nous
donnez... la mangrove. De temps en temps, vous allez croiser un petit harpon. Un petit harpon, ou autrement appelé grand écaille. Et puis vous admirez la nature parce que vous êtes en complète connexion.
Bon, ça suffit, Hélène. ça suffit maintenant.
J'arrive, Hélène. J'arrive.
Parce que la chaleur ici, là, dans le studio, oui. Au niveau de l'odeur, on n'est pas sur de l'exotique. Ou alors, Nautic Blue Caraïbes. Ça se trouve où, Mornalo, en Guadeloupe? Ah, Hélène?
Mornalo, en fait, on est à 15... Vous m'entendez?
Oui. On a été coupé.
Oui, on est à 15 minutes grand maximum de l'aéroport. Donc en fait, vous avez le privilège, quand vous sortez de l'aéroport sur le vol de 15h25, après avoir récupéré votre bagage, voilà, vous arrivez directement en 15 minutes à la base Nautic Blue, et là, vous commence votre aventure dans les îles de Guadeloupe.
Ah oui, tout de suite.
C'est pas beau, ça.
D'entrée de jeu. Et puis surtout, vous n'oubliez pas, parce que vous pouvez emmener Europe 1 avec vous grâce à l'application Europe 1. Et vous descendez 15h20, hop, dans les oreilles Europe 1, bim, allez, un quart d'heure, on est au Nautic Blue Caraïbes. Merci beaucoup, Hélène, la directrice de projet, Hélène Poirier. Bah, ça donne envie. Nous, on va rester là, on va rester avec vous ici dans le studio d'Europe 1 pour la suite de cette arrivée près de chez vous.
Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
Alors, si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, sachez que nous suivons depuis le 1er août, date de départ, depuis le parvis de Notre-Dame, nous suivons Ludovic Éboueur, star parmi les stars sur tous les réseaux sociaux, mais c'est une méga star, Ludo, ce qu'on peut se permettre de l'appeler comme ça. Et tous les jours, il fait entre 15 et 20 km à pied avec ses équipes pour aller ramasser nos déchets, il faut bien le dire. Beaucoup de mégots, beaucoup de bouteilles en plastique et plein d'autres choses. Entre Paris et Marseille, ça se compte en tonnes. Et nous avons avec nous. Bah, il est peut-être nu.
C'est possible. Non,
c'est possible qu'il soit nu sur une poubelle en train de danser. Ça ne m'étonnerait pas de sa part. Bonjour Ludovic.
Bonjour Bérénice, bonjour à tous.
Alors, ouais, on rigole. Vous êtes où exactement? Vous faites quoi précisément, Ludo?
Alors, nous sommes à Cosne-sur-Loire, et là, actuellement, on n'est pas encore arrivé, il monte 150 mètres, mais par contre, on a trouvé trois grosses poubelles énormes, et nous allons faire une petite vidéo en dansant sur la poubelle. Ça va être juste incroyable. J'ai trop hâte.
Donc, vous allez faire une chorégraphie sur les poubelles?
Exactement, ouais. Exactement. Puis après, jetons à la poubelle.
Ah bah oui, non, mais ça peut devenir... Nous, on va la regarder. Vous allez la poster quand? Parce que après...
Aujourd'hui, dans la soirée.
Donc, il faut vous suivre sur tous les réseaux sociaux, principalement sur TikTok, mais vous êtes sur Instagram également. Et donc, c'est une chorégraphie qu'on peut tous refaire, là, comme font les jeunes d'aujourd'hui, j'ai envie de dire.
On va essayer.
Faites simple, parce qu'on a des soucis psychomoteurs, nous, ici. Ludovic, comment s'est passé votre week-end?
Impeccable, René de la Frite. Oh là là, incroyablement délicieuse. Non, vraiment.
Ça, c'est ce que vous avez mangé. Mais vous avez continué à ramasser des détritus.
Oui. Oui, oui, tout à fait. Alors, du coup, là, nous sommes... Écoutez-moi bien, nous sommes à plus de 3000 bouteilles ramassées.
Aïe, bouteilles en plastique.
Nous sommes actuellement à plus de 150 sacs. Je crois qu'on a dépassé, on va dépasser les 200, là, maintenant, il faut qu'on les compte.
Ouais, 200 sacs poubelles que vous portez. Enfin, vous avez des roues de sacs. Voilà. Alors, de 100 litres. Oh là là là,
oui,
là là là.
Imaginez, en litres, ça, c'est impressionnant. Ouais, non, c'est des chiffres hallucinants, vraiment. Même nous, alors là, on a un top 10, en fait. Nous, on va faire un top 10 ce soir des déchets qu'on ramasse. Je peux d'ores et déjà vous dire que la canette, elle a dépassé la bouteille, parce que la canette, c'est un vrai désastre. Il y en a partout, partout, partout. Et je peux vous donner le top 3, par exemple. Oui. Canette, bouteille en plastique. Et ensuite, on va dire...
Mégot ?
Allez, non, bouteille en verre. Bouteille en verre. Les mégots, je mets hors catégorie. Ça, c'est une... Excusez-moi, mais c'est une vraie merde. Pardon. Ouais.
Non, mais allez-y, vous pouvez. Vous pouvez.
Hors catégorie.
Nous, on peut pas, mais vous
pouvez. C'est une vraie plaie, ce mégot.
Oui,
quand vous faites un effort, vous pouvez dire autre chose que des gros mots. C'est bien.
Canette, bouteille en plastique, bouteille en verre. Alors que, écoutez-nous bien, il y a des sacs spécifiques, il y a des poubelles spécifiques dans lesquelles il faut déposer ce genre de choses. On ne balance
exactement.
Pas.
Exactement. C'est un truc de... J'ai une petite colle à vous poser.
Allez-y.
Comment on appelle les habitants de Bonny-sur-Loire?
Je le sais.
Alors allez-y.
Les bonichons.
Exactement, les bonichons, on les a quittés tout à l'heure.
Ouais, ça vous fait rire, évidemment. Hein.
Et les habitants de Cône, on les appelle comment, Ludovic?
De Cône?
Oui.
Je ne me suis pas encore renseigné, mais je vais voir le maire.
Voilà, pour demain.
Cône-Cours sur Loire, c'est ça.
Ouais. On peut vous retrouver où alors? Ce soir, vous allez arriver et pour demain, vous faites d'où à où?
Alors demain, nous allons. Alors ça sera sur la nationale 7, comme toujours. Donc on fait Cône et Metz sur Loire. Donc demain, on a un petit peu moins de kilomètres qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fait 19 kilomètres, on est très fiers de nous.
Ah bah bravo.
Mais demain, c'est férié.
Mais non,
il n'y a pas de férié pour les déchets,
Voilà, il n'y a pas de férié pour les déchets, il n'y a pas de férié pour les braves. D'ailleurs, nous serons là également en direct. Voilà. Ludovic, on vous suit évidemment sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, sur tous les réseaux. Et on attend avec beaucoup d'impatience votre chorégraphie que nous tenterons ici même avec tous mes camarades de reproduire. Je dis bien nous tenterons. Merci Ludovic, on le retrouvera demain dans quelques instants. La suite du quiz qui s'est passé avec Jules et ses informations insolites.
Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
Un, deux, trois.
Elle peut aussi y arriver.
Mais non, on ne sait pas, justement. C'est ça le truc. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on va le savoir avec Jules Bernard Leblon, qui est un passionné d'information, qui aime les nouvelles, mais surtout pas les nouvelles fraîches. Lui, non, il les aime...
Passé.
Ouais, périmé.
En limite DLC, quoi. Limite.
Qui sentent pas super bon.
Mais qu'on peut recycler.
Ah, et ça, c'est important.
Bien sûr.
Et vous avez un sac poubelle spécifique.
Gavé.
Gavé, mais poubelle spécifique.
Tout
parce qu'on ne jette pas sa vieille information comme ça par terre.
Ah ben non.
Non, on la met dans le sac adéquat.
Exactement.
Comme chez là, elle adéquate. Alors, vous avez fouillé dans vos archives et nous allons devoir deviner parmi plusieurs propositions celle qui est véridique.
Absolument. Et nous partons à Brignoles.
C'est pas vrai.
Oui.
Dites-moi pas que c'est pas vrai.
Nous sommes le 20 septembre 2016.
Ouh.
La famille...
C'est vraiment pas vrai.
Oui, une famille que l'on appellera la famille Dupont, avec un T,
oui. Hein,
parce que c'est important, même pour un nom d'emprunt, puisque c'est pas leur vrai nom. La famille Dupont, avec un T, voyage sur l'A8 en direction de l'Italie pour des vacances hors saison, bien méritées. Comme tous les touristes qui descendent vers la Côte d'Azur... En voiture, ils ont passé 396 péages et ils ont claqué le PIB du Guatemala sur les autoroutes. Tout allait pour le mieux quand, tout à coup, sur l'autoroute à la hauteur de Brignoles, ils vivent une expérience qui les secoura pendant plusieurs années. Quiz qui leur est arrivé. Trois possibilités, si je ne m'abuse. Quatre possibilités aujourd'hui. C'est Byzance. Petit A, ils ont aperçu sur une aire d'autoroute une pompe à essence avec du carburant à moins de 2,40 euros le litre. Quand t'es pas préparé, hein, ça choque. Petit B. Monsieur Dupont, fier conducteur de son Citroën Berlingot, dont il dit lui-même « c'est moche et bruyant et pas confortable, mais qu'est-ce que c'est pratique quand t'as besoin de transporter deux machines à laver », se fait doubler par la droite par une trottinette dont il estime la vitesse à 190 km par heure. Le rejoignant plus loin sur une aire de repos, il questionnera le pilote de la dite trottinette. « Comment diable faites-vous pour rouler à 190 km/h ?» Ce à quoi le pilote répondra « Je freine, monsieur, je freine !» D'ailleurs, si je peux me permettre, on peut écouter. On a l'enregistrement de la trottinette qui passe. Ou alors petit C. Alors qu'il roule paisiblement sur la voie centrale, Madame Dupont remarque au loin que ce qui ressemble à une personne se déplace à pied sur la voie de droite au mépris du danger. Monsieur Dupont reste sur sa file et à grand renfort de klaxons manifeste son mécontentement au piéton qui n'a rien à faire là. C'est alors que médusé, il constate tous deux que ce piéton hasardeux porte des chaussures de ski. Encore un de ces barjots qui prépare le semi-marathon de Paris, assurera Madame Dupont à son mari avant de lancer par la fenêtre deux ou trois pommes de terre qui lui restaient de ses courses du dimanche matin. Ou alors, petit dé, alors que madame, monsieur et madame Dupont roulent à vive allure dans leur berlingot, madame Dupont hurle à s'en briser la voix qu'un hurluberlu est en train de dépasser le berlingot à toute berzingue. Monsieur Dupont, qui est désormais les tympans percés, hurle lui aussi « Où ça, Jeannine ? À gauche, à droite ?» Ce à quoi Jeannine répond « Par au-dessus !» Et pour cause, un avion est en train de se poser sur l'autoroute.
Ok,
alors petit A, l'essence à moins de 2,40€ le litre. Petit B, je me souviens plus de la trottinette.
La trottinette à 190 km/h.
Petit C,
les chaussures de ski.
Les chaussures de ski ou petit D, l'avion.
Nicolas.
L'avion.
L'avion.
Avion.
Avion. Moi aussi, je dis avion.
Eh bien, c'était l'avion.
Là, voilà, c'est plié.
Avec trois personnes à son bord qui venaient de décoller de Pierrefeu. Il y a eu une avarie moteur. Le gars a réussi à se poser sur l'autoroute sans problème, sans causer ni même d'embouteillage, ni aucun accident sur l'autoroute. Chapeau, mon petit coco.
Super pilote qui pourrait peut-être même aller jusque sur Mars. Hein, là,
ah voilà. Là, il ah peut bah y là, aller.
Ah bah oui, Mars, sur bien Mars. Sûr.
Allez. Sûrement, oui.
C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
Et si ça se trouve, ça s'est passé près de chez vous. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé à Junas, Jules?
Eh oui, à Junas. Alain Roussel était un homme originaire de Junas, une petite commune du Gard.
30
régions.
Région, alors le Gard, c'est encore l'Occitanie.
C'est encore l'Occitanie ?
Oui.
On n'est pas en PACA ?
Non, pas, on est frontalier, mais on n'est pas en PACA.
Bravo. C'était un piège que je lui tendais.
N'importe quoi.
Une petite
commune
dans laquelle coule la Vidourle. La Vidourle, où s'écoule le temps aussi, comme partout en fait. Hein, voilà, il n'y a pas de faille spatio-temporelle à Junas. Sauf que, si j'ai dit « était » concernant notre Alain Roussel, c'est que mon Alain Roussel est tout à fait décédé.
D'accord.
Depuis un bail. Mais il a laissé des traces derrière lui, telles qu'on se souvient bien de lui, et pour une bonne raison. Qu'est-ce que c'est que cette raison ?
Vous avez des propositions ?
J'ai des propositions. J'en ai trois.
Très bien.
La première, petit A. Alain Roussel a trois maisons qui n'ont ni poutre ni chevron, c'est pour loger les hirondelles, qu'a dit Raymond Kader Roussel. Mais vraiment, Kader Roussel est bon enfant. Si Alain Roussel n'est pas l'inventeur de cette chanson, c'est en revanche lui qui déposa à la SACEM la version Baliballo. Baliballo dans son
moyen. Non, non, non,
je propose. Qui reprend la même musique, c'est ça.
Voilà, qui reprend la même mélodie. Et je propose de ne pas chanter d'extrait maintenant, car il y a des enfants qui nous écoutent. Voilà. Et les enfants, demandez à papa ou maman de vous chanter Baliballo dans la voiture.
Ils vont
adorer. Si. Donc, ça, c'est la petite A. Lui a déposé, non pas Kader Roussel, mais Baliballo. Petit B. Alain Roussel était un cambrioleur de renom. Il a séjourné en prison plus longtemps que moi en Belgique. Et malgré leurs efforts, les habitants de Junas n'arrivent pas à oublier ce malfrat, surtout ceux qui portent le même nom que lui, bien entendu. Ou alors petit C, Alain Roussel, originaire de Junas, a laissé des dizaines d'enregistrements derrière lui. Ce fan de musique reprenait les chansons du chanteur dont il était le sosie absolu et dont il n'avait pas mis longtemps à trouver le pseudonyme. Michel Junas. Petit A, Baliballo. Petit B, le cambrioleur. Petit C, Michel Junas.
Il n'y a rien de vrai là, aucune n'est plausible. Il nous embrouille.
C'est la B. J'arrive à vous dire, parce que sinon, on n'aura pas le temps.
On ne peut même plus jouer. Non,
vous n'avez pas le temps, vous n'avez plus le temps de jouer.
On ne peut plus jouer. Un peu parti, un peu naze.
Voilà. Je sors de la boîte du jazz. Alors, c'est la B. Figurez-vous qu'Alain Roussel est cambrioleur décédé, originaire de Junas, porte préjudice à Alain Roussel, originaire de Junas, mais pas décédé, lui.
Ah.
Et voilà, il est ancien militaire, il est devenu fonctionnaire, et notre Alain Junas, bien vivant, devait recevoir, se voir décerner une médaille du mérite, mais le casier judiciaire de son homonyme l'empêche d'accéder à la reconnaissance nationale. Alors, depuis combien de temps ? Oh, pas grand-chose, rien, ça fait 30 ans que ça dure. Alain Roussel n'est pas empereur, il est militaire, mais il est temps que l'on rende à Roussel ce qui appartient à Roussel. Voilà.
Michel Junas. Allez, restez avec nous, ça va être le moment de jouer. Mais pour de vrai, cette fois-ci, avec des vrais cadeaux. Un panier garni pour commencer et un an de vacances. On va jouer au quiz des régions avec Maître Galibert. A tout de suite sur Europe 1.
C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
C'est arrivé près de chez vous tous les jours sur Europe 1, entre 16h et 18h. Vous jouez pour gagner, pourquoi pas, un an de vacances. Et avant cela, un panier garni. Aujourd'hui, c'est un panier garni trésor de l'épicurien. Ça veut tout dire, avec plein de bonnes choses, évidemment. On vous détaillera tout cela. Pour vous inscrire, que ce soit pour aujourd'hui, dans quelques minutes, ou déjà pour demain, n'hésitez pas à vous envoyer le mot-clé « région » par SMS au 739 21. Mon cher maître, c'est à vous.
Cette région est aussi la deuxième région touristique française derrière l'Île-de-France, et cela, notamment grâce au sport d'hiver et plus généralement au tourisme de montagne.
Auvergne-Rhône-Alpes.
Exactement, monsieur Jules, bravo. Alors, on va jouer, on va faire un petit clin d'œil à Question pour un champion. On va jouer à Je suis, je suis, je suis, avec les animaux qui vivent dans les Alpes. Vous êtes prêts ?
Voilà.
Bérénice.
Ouais.
Je suis un mammifère de la famille des bovidés, pouvant vivre jusqu'à 25 ans. Je me distingue par mes petites cornes qui poussent dès la naissance, et ma peau peut servir à laver les voitures. Je suis, je suis, je suis...
Un chamois !
Oui ! Nicolas, vous êtes prêt ?
Bravo.
Je suis une sorte de chèvre sauvage. Mon nom dérive du provençal Boc Estan, qui signifie bouc au pied solide. Je suis le
bouquetin.
Le bouquetin, oui. Jules, je suis un mammifère de l'ordre des rongeurs. Je suis timide et prudente, et mes aboiements sont proches du sifflement.
Je suis la marmotte.
Oui, ben vous avez parfaitement réussi l'épreuve. Bravo. Ouais. La marmotte qui siffle.
Siffle.
Hein.
Oui.
Ah oui, la marmotte qui siffle, c'est... Ah, vous faites bien la marmotte.
Très bien.
Il y avait aussi le tétras, le chevreuil, l'aigle, l'hermine des Alpes, et avec sa belle fourrure, évidemment. Liste non exhaustive.
Bien sûr.
Destination, le département à présent, messieurs, dames. Oui. Destination, la Haute-Auvergne. Ce département porte le dossard numéro 15 et son nom pourrait vous rappeler un fromage.
Cantal.
Bien. Ses habitants sont appelés les Cantaliens, ou plus familièrement les Cantalous. Le mot Cantal vient du gaulois Cantalo, qui veut dire frontière, dans cette langue celtique. Le massif du Cantal séparait entre autres l'Auvergne au nord, le Rouergue au sud. Et nous sommes sur un promontoire volcanique. Cette cité d'art et d'histoire cultive son caractère montagnard avec audace et modernité. Il s'agit de Saint...
Saint-Flour
dans le Cantal.
Saint-Flour, très bien, c'est noté, je vous le disais. Si vous êtes originaire de Saint-Flour, si vous connaissez bien Saint-Flour, ou pas, c'est selon. De toute façon, vous êtes toutes et tous les bienvenus. N'hésitez pas à vous inscrire en envoyant région au 739-21. Christine, tout à l'heure, a marqué 10 points. Vous pouvez faire aussi bien qu'elle. Bonne chance à vous. Et à tout de suite pour votre questionnaire.
C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
C'est arrivé près de chez vous avec le quiz des régions direction Saint-Flour. Je vous rappelle que tout à l'heure, Christine a joué avec Castres et a remporté 10 points. J'espère que ça ne va pas vous faire peur, Astrid.
Bonjour toute l'équipe.
Bonjour Astrid.
Astrid à Vannes. Vous êtes à Vannes en ce moment ?
Non, je suis en vacances.
Ah, et vous êtes où en vacances ?
En Corse.
Oh.
Ah ouais, il y a pire. Il y a pire.
C'est dur.
Oh mon Dieu, on vous plaint. Moi, vous pouvez me plaindre parce que vous êtes originaire de Vannes, mais ici, des vannes pourries, il en pleut. Bref, Astrid, bonne chance. Je vous laisse entre les mains de Maître Galibert. Bonne chance à vous. À vous de faire au moins, de toute façon, vous ne pouvez pas faire plus, mais 10 bonnes réponses.
Astrid, première question, vrai ou faux, sur la ville de Saint-Flour, donc. Et la ville porte le nom de Florus, apôtre de l'Auvergne au IVe siècle. Vrai ou faux ?
Oh, je dirais vrai.
Oui, vrai, vrai. Saint-Flour, appelé aussi Saint-Florus, est le plus ancien évêque de l'Odève, prêchant la foi dans le Languedoc et l'Auvergne. Il y aurait été martyrisé vers 389, selon la légende. Vous marquez un point. Pour deux points, deuxième question, deux propositions de réponse. Chaque année, Astrid, Saint-Flour vit au rythme du Festival des cultures de montagne. Comment s'appelle ce festival ? Petit A, le Festival Alta Terra ou le Festival des Hautes Terres ? Alta Terra ou Haute Terre ?
Le deuxième. J'arrive pas à prononcer le premier, alors le deuxième. Les Hautes Terres.
C'est la bonne réponse, bravo. Le Festival des Hautes Terres rencontre des cultures de montagne, accueillant des artistes du Massif Central et d'autres régions montagneuses du monde. C'est une importante tribune pour les musiques occitanes. Très bien, pour trois points. Troisième question, trois propositions. Attention Astrid. Que se passe-t-il à Saint-Flour tous les premiers dimanches de chaque mois ? Petit A, tous les magasins de la ville sont ouverts. Petit B, l'entrée du musée est gratuite. Petit C, l'eau est coupée dans la commune par souci d'économie.
Les musées.
L'entrée du musée est gratuite.
Ça me paraît plus logique. Les musées, oui.
C'est une bonne réponse, Astrid. Wow. Bravo.
Ouais.
Le musée de la Haute Auvergne, situé dans l'ancien palais épiscopal, est édifié au XVIIe siècle au pied de la cathédrale de Saint-Pierre, présente des collections identitaires étonnantes, témoins de l'histoire de ce pays de haute terre. Bravo, 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 bravo.
Dites-moi,
Astrid,
vous connaissez Saint-Flour ?
Non, j'y suis jamais allée.
Bon, enfin, c'est dingue ça. Alors attention, attention à ce moment très précis de la compétition, parce que c'est une compétition. Je vous rappelle que Christine a marqué 10 points. Donc comme vous, elle a fait toutes ses trois premières étapes. Donc comme vous, à la troisième question, elle avait déjà fait 6 points. Est-ce que comme elle, vous allez marquer 4 points avec cette dernière question ? Nous le saurons dans quelques instants, 17h53 sur Europe 1.
Astrid, attention. Connaissez-vous, Astrid, cette chanson ?
Elle est à toi, cette chanson, toi l'Auvergnat qui, sans façon, m'a donné quatre bouts de bois, quand dans ma vie il faisait froid.
Astrid, vous connaissez ?
Oui, Brassens.
La chanson pour l'Auvergnat de Georges Brassens. Georges Brassens était né petit A, ici à Saint-Flour, petit B, à Clermont-Ferrand, petit C, à Sète, petit D, à Paris.
Oh, c'est ça, je le sais. Il est à 7. Il est né à 7.
Comment vous savez ça ?
Parce que tout le monde le sait.
Parce que je le connais.
Ah, personnellement.
Vous connaissez Georges Brassens ?
Non, pas personnellement, mais j'aime bien Georges Brassens.
Bravo, effectivement, Astrid.
Oula.
Et le personnage de l'Auvergnat aurait été inspiré par Louis Cambon, un natif du Cantal, propriétaire du Bar des Amis, proche de Brassens.
La poésie, c'est plutôt Brassens, non ?
Tu m'emmerdes avec Brassens, toi. Hein ?
Celui qui fait rimer quoi avec quoi ?
Il fait rimer des choses.
Voilà. Des nouilles et tout ça. Dites donc, non, mais qu'est-ce qui s'est passé ce week-end là ?
Journée de champion.
On n'a jamais eu ça. Si.
On n'a jamais eu
si.
Ça. Peut-être.
10 et 10 ?
Ah, 10 et 10.
10 et 10. Ça fait
oui, on a déjà eu 10 et 10.
10 et 10, ça fait 20.
Oui, c'est ça.
Mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est le score de Christine. Christine, vous êtes avec nous ? Oui, non, bon, enfin voilà, ça c'est pour plus tard. Christine, elle a mué. Christine a mué. Christine,
oui.
10 points. Astrid, 10 points également. Vous êtes forte. Permettez-moi de vous dire ça. Vous êtes forte, vous êtes très forte. Vous pourriez être mes idoles parce que moi j'ai une idole par jour, mais aujourd'hui c'est quand même Jules et son Michel Junas. Mais vous êtes très très fortes toutes les deux. On vous a départagé hors antenne avec une question subsidiaire. Celle qui s'est le plus rapprochée de la bonne réponse, celle qui va repartir avec ce panier garni trésor de l'épicurien, composé de délicieux produits régionaux, avec entre autres du cidre extra brut, une terrine de canard aux figues noires, des rillettes de dorade, des filets de sardines, des caramels fondants au chocolat. Celle qui va remporter ce panier garni, c'est vous, Astrid.
Oh, super !
Mais oui ! Bon, Christine, vous n'êtes pas en reste. Nous vous offrons un Cluedo version escape Escape Game, j'ai toujours du mal à le dire, Péril en haute mer, un tout nouveau jeu qui allie le suspense et l'intrigue du Cluedo, un jeu d'enquête classique et un jeu dynamique de type Escape Room avec une toute nouvelle intrigue. Et puis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je ne sais plus comment il faut dire, Astrid et Christine, vous le savez, vous faites partie de cette longue liste et rendez-vous le 25 août prochain pour peut-être vous offrir un an de vacances.
On
vous
embrasse
bien fort, félicitations à vous deux. Et puis rendez-vous demain, Nicolas, Jules, Maître,
demain,
demain à 16h, voici tout de suite Europe 1 Soir avec Wilfried Devillers sur Europe 1.